Dimanche du bon pasteur. Je ne vous cache pas que c'est avec confiance, mais aussi avec une certaine tristesse que je vis ce jour-là. Il y a quelques jours, dans mon pays, un de mes chers amis journalistes catholiques, responsable d'une agence importante de notre Église, a reçu un prix très éminent de la part des journalistes suisses pour une investigation qu'il avait faite et qui s'intitulait « Quand le berger devient loup ».« Quand le berger devient loup ». Vous voyez très bien à quoi il faisait allusion, à quoi je faisais allusion aussi, à cette terrible souffrance qui a endolori le cœur de l'Église et le cœur des chrétiens. Je lui ai répondu, écoute, mon cher Pierre, il s'appelait Pierre, merci, je te félicite pour ton prix, tu le mérites bien, tes compétences sont bien reconnues, mais j'aurais préféré entendre de toi des nouvelles plus réconfortantes, mais la réalité étant ce qu'elle est, je te remercie au moins pour ta franchise et pour ton courage de les avoir dites. Mais tu me donnes aussi l'occasion de relire peut-être un peu plus attentivement l'évangile de ce dimanche que le frère Jean-François vient de vous lire. Et qu'est-ce que j'y lis ? Une chose absolument importante, ou deux. La première, c'est que les brebis ne peuvent être arrachées de la main du pasteur, ni du Père qui les a confiées au pasteur. Et ce pasteur, c'est le Christ. Personne ne peut les arracher de ma main. Il y a dans cette affirmation quelque chose qui va très loin, qui passe peut-être au-delà de toutes les souffrances, peut-être qui ne s'explique pas, qui ne se raisonne pas, mais que quels que soient les malheurs qui sont les nôtres, Dieu n'abandonne pas la partie. Il est toujours là. La deuxième chose que je lis dans cet évangile, c'est qu'il n'y a qu'un seul pasteur, un seul qui mérite ce nom. C'est le Christ Jésus qui a donné sa vie pour ses brebis, pour toutes ses brebis, celles qu'il connaissait, celles qu'il avait autour de lui quand il était parmi nous, et celles qui allaient survenir jusqu'à la fin des temps. Vous en êtes comme j'en suis. Il n'y a qu'un seul à mériter, à porter ce nom de pasteur. Comme dans l'évangile de saint Matthieu, je crois, il est dit que le nom de Père n'appartient qu'à Dieu. Et tous les autres pères qui sont sur la terre ne sont que pères, j'allais dire, en dégradé. Oui, bien sûr qu'il y a des pasteurs dans l'Église et hors même de l'Église qui portent ou ne portent pas des crosses et des mitres. Il y a des pasteurs qui sont hommes ou femmes. Dans mon pays, il y a, et en France aussi, il y a des pasteurs évangéliques, des pasteurs protestants, femmes, bien sûr. Peut-être un jour, nous aurons aussi nos pasteurs femmes catholiques. Il y a même dans mon pays, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, tous les agents pastoraux, comme on les appelle, les agents pastoraux, qui sont des laïcs beaucoup plus nombreux que les pasteurs officiels, du reste, qui travaillent dans l'Église. Ah, est-ce qu'ils méritent leur nom de pasteur ? Non, ils ne le méritent pas. Ils ne sont pasteurs qu'en dégradé. Ils n'ont que reçu une mission, celle que l'unique pasteur leur a confiée, et cette mission, eh bien, ils doivent l'accomplir sous le regard de cet unique pasteur, et ils doivent lui en rendre compte, si ce n'est à la fin des temps, du moins dans l'exercice même de leur mission. Et je pense qu'il en a toujours été ainsi. Et quand on regarde un peu le résultat, on peut se demander parfois si l'unique pasteur a fait un bon casting. Quand je regarde un peu les évangiles et que je vois le défilé des premiers apôtres, ben, le casting était plutôt misérable. Parmi les premiers appelés, il y a eu un traître, il y a eu un renégat, une équipe de pleutres qui sont évanouis dès que le vin a commencé à devenir du vinaigre. Bien. Mais le bon pasteur ne les a pas oubliés malgré tout. C'est lui qui a empêché Pierre de s'embourber davantage. Et qu'est-ce que j'en sais après tout ? Il a pu donner aussi sa miséricorde à celui dont il est écrit qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. La miséricorde de Dieu qui va sur tous et sur nous tous. Et j'ajoute encore une chose importante. Ce mot de pasteur n'est pas seulement réservé à ceux qui ont un rôle dans l'Église ou dans la société ecclésiastique. Mais je vois autour de moi, il y en a beaucoup, des parents, des grands-parents, qui sont des pasteurs, d'authentiques pasteurs qui ont reçu aussi ce rôle en délégué de l'unique pasteur. Pasteur de qui ? Bien, de ceux qui leur sont confiés, de leurs propres enfants peut-être. Et il y a même peut-être même des enfants, qu'est-ce que j'en sais, qui sont pasteurs de leurs parents. Eh oui, j'en connais. Sans rien dire, qui guident peut-être leurs parents là vers les verts pâturages, là où l'eau ne manque jamais, alors que leurs parents cheminent désaltérés, assoiffés dans un désert finalement qui les éprouve et qu'un désert qui va vers la mort. Mais comment exercer ce rôle pastoral dans ce cas-là ? Vous le connaissez mieux que moi. Vous savez bien que on ne peut plus utiliser d'injonctions, ni de menaces, ni de punitions. Mais ce rôle pastoral, c'est un rôle de présence, d'accompagnement, très souvent de silence, d'un silence qui est fait énormément d'amour. Et c'est cela, finalement, qui s'appelle conduire le troupeau. Tout le monde connaît, bien sûr, cette parole de Caïn. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Oui, tu es le gardien de mon frère. Tu es le gardien aussi de ta sœur. Mais tu n'es pas le gardien comme un garde-chiourme. Tu n'es pas derrière lui comme un espion. Mais tu es avec lui comme un guide et qui l'amène finalement au vert pâturage et au bonheur. Je ne peux pas terminer ces quelques mots sans vous faire lire, c'est Jean-François qui va le faire, 4-5 versets qui terminent la première lettre de Saint-Pierre. Ce fameux Saint-Pierre, justement, à qui, justement, Jésus a fait le pasteur de son troupeau. Et finalement, à la fin de cette première lettre, il a des réflexions admirables sur ce rôle de berger. Non pas sur le rôle du bon berger, mais sur le rôle du berger qui nous a confié à vous, les laïcs, comme à nous, les prêtres et tous les autres. Et je demande à Jean-François de venir vous le lire.
Quant aux anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau, et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. »